Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre 2013. 13-10-13. Je donne juste ça, on y reviendra. 13-10-13. Et beaucoup parmi vous étaient présents dimanche dernier. Franck n'est pas là, mais on a eu un super message. Et je voudrais juste faire une petite révision et vérifier qu'on a bien pratiqué le message. Donc, on a tous bien mémorisé que nous ne sommes pas des kiwis. Vous vous rappelez ? Nous ne sommes pas des kiwis, je parle des oiseaux, hein. Nous ne sommes pas des... Bon, Astérix, on veut bien parce qu'il a la potion magique, ça nous plaît. Mais nous ne sommes pas des aptéris, c'est bon ? Aptéris, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sans ailes, nous avons des ailes. Donc, si nous ne sommes ni des kiwis, ni des aptéris, nous sommes des aigles royaux. Ça vous va ? En plus, en Alsace, bravo l'Alsace, vive l'Alsace, on a une volerie des aigles. Si vous faites dans Google « aigle » Alsace, ou même aigle, vous tombez sur la volerie des aigles. Donc on est vraiment un endroit pour les aigles. Nous sommes des aigles royaux. Et très gentiment, Franck nous a dit, nous ne sommes pas ce que l'ennemi voudrait nous faire croire, des poules d'eau. Il était gentil parce qu'Alain Rindel, la même semaine, a donné un message à l'école Daniel, collégien lycéen, leur disant que nous ne sommes pas des poulets de basse-cour. Et je trouve que c'est plus représentatif, les poulets de basse-cour, que les poules d'eau. C'est gentil, les poules d'eau. Donc, la semaine... Révision, est-ce qu'on a pratiqué le fait que nous étions des aigles royaux ? Grand silence, on rentre en soi-même. Généralement, le matin, ça commence bien. Enfin, surtout au Collège Daniel, temps d'adoration. On est dans, le dimanche matin aussi, on est dans les airs. Royaume de Dieu, la paix, la justice et la joie. C'est bon. On commence dans la journée. Et la journée commence, et les ennuis avec. Et l'aigle royal, là, il doit commencer... Avec son regard ultra perçant, il voit les serpents. Et le terrain d'exercice favori des aigles royaux, c'est l'établissement scolaire Daniel. C'est là qu'il faut faire des vols en piqué pour tomber sur les serpents et les scorpions. Je ne parle pas des élèves, je vous rassure. Hein. On parle des comportements, les comportements des élèves. Mais là, on a aussi des aiglons. Donc on a toute une troupe d'aiglons qui font former, Dan, t'es d'accord, des aiglons, on forme les aiglons pour être des beaux aigles. Et on a, avec notre regard 8 fois plus perçant que le naturel, vous savez, les aigles, ça a 8 fois plus de regard, enfin de vision que l'aigle, l'homme normal. Avec notre regard surnaturel d'aigle, on voit au-delà du comportement de basse-cour, on voit l'aigle. Il faut beaucoup de foi parfois, mais on le voit. Seigneur, non, ton regard à toi, ta vision à toi, tu enlèves la pollution... C'est un aiglon, c'est un aigle. Et vous rentrez dans la salle de classe, et parfois c'est beau. Les aiglons, ils volent en harmonie, ils aiment la parole, ils chantent, ils improvisent, ils inventent des chants, composent des chants à Dieu. C'est vrai, c'est vrai. C'est magnifique, vous êtes tout réjouis. Ça y est, mes aiglons, ils volent. 2 heures après, les mêmes aiglons, vous rentrez et vous prenez des, non pas des vols d'aiglons, mais des vols de chaussons. Véridique, véridique. On m'a pris mon chausson. Je ne dis pas le niveau. Non. Et là, j'ai une parole très malheureuse. Véronique n'est pas là, Patricia non plus. J'ai dit, mais vous êtes comme des enfants de maternelle. La prochaine fois, je dirais, vous êtes comme des poulets de basse-cour. Comportement de poulets de basse-cour, mais ce sont des aigles. Donc, nous, notre grand défi, c'est de demeurer des aigles royaux. D'abord, en être convaincus et agir comme des aigles royaux. Demeurer dans la paix, le repos, la joie, quoi qu'il arrive. Et là, je veux vous dire, il y a des progrès. Enfin, moi, je me dis, il y a des progrès à faire. Hein. Je pense qu'on est tous pareils, les parents, avec la famille, c'est pareil aussi. Hein. Les parents, nous tous, les enseignants, mais je trouve que les enseignants, on a une dose spéciale d'entraînement pour demeurer des aigles. Mais nous sommes des aigles royaux. Et nous allons devenir de plus en plus performants. Alors, le top de l'aigle, c'est qu'il peut prendre la proie en vol. Parce que le problème de l'aigle, c'est quand il se pose, et il a du mal après à redémarrer. Vous voyez, c'est parce que après, les ailes... Elle plonge dans la boue des comportements charnels, et après ça, c'est un peu lourd, et puis on a du mal à remonter. Mais normalement, c'est fabuleux. Alors, je ne voulais pas vous parler des aigles, c'était juste un petit rappel de la semaine dernière. Continuons à nous entraîner, nous sommes appelés à vraiment marcher par l'esprit, parce que l'aigle, ça parle de ça. La marche par l'esprit, on n'est pas appelé à marcher dans la chair, on marche par l'esprit. Et même si on tombe, on se fait grâce, on recommence. Et on va marcher dans l'esprit de mieux en mieux, avec un regard renouvelé sur nous et sur les autres. Mais là, ce matin, je vais vous parler par une petite devinette, comme Franck, un autre oiseau. Je ne suis pas royal, je suis plus que royal. je ne vole pas dans les airs, je vole dans les eaux. Et c'est là que je trouve ma pâture. Qui suis-je ? Alors ceux qui me connaissent, ils ne devraient pas répondre parce que... voilà, je recommence. Je ne suis pas royal, je suis plus que royal. Je ne vole pas dans les airs, c'est dans les eaux que je vole et c'est là que je trouve ma pâture. Qui suis-je ? Le manchot empereur. Bravo, François, t'as trouvé. Il y en a eu d'autres réponses. Le manchot empereur. Alors, le manchot empereur, bon, il y a longtemps, j'ai donné un message, c'est un oiseau extraordinaire. Il y a quelques années, c'était prophétique de ce qui venait maintenant, plus tard. Maintenant, je trouve qu'on est vraiment, vraiment en plein dedans. Alors, David, si tu peux mettre mon image numéro 1. Je me suis modernisée, clé USB, photo, vous voyez, quelque chose de moderne. Là, vous avez notre bande, première image, notre bande de manchots empereurs. Et là, mes amis, il vaut mieux que nous soyons ici que là-bas. C'est l'Antarctique, vous aviez un petit peu froid ce matin, là-bas c'est du moins 60, et des vents de 200 à l'heure. Ça vous va comme ambiance ? Et vous vous dites, mais pourquoi Seigneur, tu as fait que des volatiles vivent là-dedans ? Moins 60 ? Et puis on est en hiver arctique, là, Antarctique, l'hiver austral, le pire de la planète, les pires conditions climatiques de la planète. Et là, vous avez votre bande de manchots, image numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, ils sont tous regroupés pour résister, évidemment, ils font la tortue. Ça vous rappelle quelque chose, hein, les Romains, la tortue. Ils font la tortue, toute notre bande de manchots. Ils sont en tout, il paraît qu'il y a des... Enfin, en tout, dans l'Antarctique, ils sont 200 000. 200 000 manchots empereurs, donc effectif stable, hein, ça ne les perturbe pas du tout l'atmosphère. Et donc ils se regroupent et ils sont tous ensemble, serrés, très 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 serrés les uns contre les autres, et ils font la tortue. Image numéro 3, voilà. C'est là. Donc, vous voyez l'hiver, il fait nuit en plus. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Il fait nuit, il fait très froid et il y a un vent terrible, ça parle de l'adversité. Ça, c'est l'environnement des manchots. Et dans cet environnement-là, à ce moment, le pire de l'année, l'hiver austral, que se passe-t-il ? Image numéro 4. Oh ! Des œufs. Le manchot, il est fécond et il a des œufs. Il couve des œufs. C'est incroyable, ça. En plein hiver austral, il ne pourrait pas choisir une autre saison, le printemps, comme tout le monde, quoi. Non. En plein hiver austral, il couve des œufs. Et là... En fait, on n'a que de les papa-maman là, mais en fait, ils sont tous serrés les uns contre les autres à couver leurs œufs en plein hiver austral. Et après, eh ben, les œufs, ils sont arrivés à la terme. Alors, les œufs, il leur faut une bonne température. Vous êtes d'accord, un œuf pour être couvé. Eh bien, les uns serrés les uns contre les autres. Alors, j'ai vu des températures incroyables, alors, moins 60 à l'extérieur. Et au milieu d'eux, il fait entre 20 et 30. Incroyable. Au-dessus de zéro, hein, évidemment. Entre 20 et 30, au-dessus de zéro. Ils sont serrés. De toute façon, l'œuf, il ne supporterait pas. Hein. Et d'ailleurs, il faut bien faire attention parce que l'œuf, s'il reste quelques secondes sur le sol gelé, c'est foutu. Il y a des fêlures et il est perdu. Et après les œufs, pas de problème. Ils sont dans la bonne ambiance. On continue. Image numéro 5. Oh ! Un bébé manchot. Oh, que c'est mignon. Vous voyez, il est bien à l'abri sous les plumes, là. Tout à fait à l'abri. Et la dernière image, c'est le top du top. Une bande de petits manchots. Voilà. Ils sont tout heureux, ils vivent, voilà, avec toute la colonie autour, bien protégée. Et là, c'est une magnifique image de nous. Alors ça, c'est les JTDR. Les beans, ça vous va ? Ils sont bien au chaud, là, on les a chouchoutés, ils déploient leurs ailes, ils commencent à très bien, j'allais dire pas voler, mais c'est dans les eaux hein, qu'ils sont excellents, les manchots dans les eaux, ils te prennent des poissons, c'est fabuleux. Ils ont vraiment une attitude de voilier, comme dans les airs, mais c'est dans les eaux. Ils sont magnifiques. Voilà, donc on a quelque chose de très fécond. Alors, application pour nous, c'est vraiment, vraiment une image qui me tient à cœur. Alors, je n'ai pas montré les images tristes. Hein. Les images tristes, c'est le petit manchot tout seul, désespéré dans le désert glacé. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Vous savez que le Seigneur nous parle par la création, très fort. Avec les lycéens, on étudie Job. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe sur la terre ? C'est terrible, les ténèbres, elles s'épaississent. Regarde ce qui se passe dans les pays, il y a euthanasie, trucs, machin. Et puis, le Seigneur nous dit, hé, regarde ma création. Ça, c'est la fin de Job. Regarde ma création. Alors, la création, elle nous montre ça. Dans la pire des conditions, Dieu a prévu une fécondité et une multiplication. Et ça, c'est un message pour l'Église. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. À suite, sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Et en pleine circonstance terrible, il y a une fécondité incroyable. Alors les œufs, voilà, Denis, il couvre des œufs en ce moment. Ça ne se voit pas, mais il en couvre. Il couvre l'œuf Caleb, l'œuf. Il y a plein de projets. Tout le monde, chacun de nous, qu'on le sache ou pas, on a plein d'œufs. Alors où ils sont sortis, on les couvre, ou bien ils sont encore en nous. C'est des rêves, c'est des visions, mais on a plein d'œufs au milieu de nous. C'est incroyable le nombre d'œufs, si on interrogeait les rêves de chacun. Et puis, c'est ensemble, on va les couver. Et il ne faut surtout pas se laisser impressionner par les conditions climatiques extérieures. Alors, je donne un exemple biblique. L'Église des premiers chapitres des Actes, elle était féconde, elle se multipliait. Le Seigneur ajoutait sans arrêt ceux qui étaient sauvés. Ils étaient très, très, très proches les uns des autres. Mais il y avait une énorme persécution. Énorme, énorme, énorme. Les autorités juives étaient vraiment très virulentes. Hein. Et en plus, il y avait l'occupation romaine, donc il y avait tout pour plaire. Quoi. Ça, peut-être qu'on l'oublie un petit peu. On voit que les signes, les prodiges, les miracles et la beauté de la communion fraternelle. Mais il y avait une terrible persécution aussi. Un exemple actuel, l'Église d'Égypte. Je vous rappelle, Émilie avait fait un rapport là-dessus. Une des plus belles églises du Moyen-Orient, elle bénit toute l'Afrique et le Moyen-Orient avec ses émissions, ses par satellite, mais elle vit une terrible persécution. Elle est unie dans la persécution, c'est une très très belle église, remplie de louanges, d'adoration, d'amour pour Dieu. Elle est sous la persécution, les vents froids de la persécution. Donc c'est pas du tout antagoniste pour Dieu. Les conditions terribles et la fécondité, la multiplication, c'est pas un problème, ça va presque ensemble. En tout cas, c'est pour nous. Donc, ça veut dire que ne laissons surtout pas désemparer ou ne laissons pas déstabiliser par les conditions terribles extérieures. Et ça va aller de pire en pire. Les ténèbres vont s'épaissir, évidemment. Donc, ne nous laissons pas déstabiliser par ça. Le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire de communion, de rassemblement, d'unité et aussi de fécondité. Et vraiment, moi je veux dire, je le dis parce que c'est une réalité, dans ce pays, l'Église de France devient très belle, elle devient féconde après des années, voire des décennies, voire des siècles de stérilité, elle devient féconde et elle est extraordinaire, cette Église. Voilà, on veut vraiment le visionner et le Seigneur est en train de ramener tous les petits manchots empereurs égarés sur la banquise, dans le désert glacé. Il y a des vents violents qui soufflent et on le sait. Que ce soit la maladie, que ce soit les circonstances difficiles, économiques, chômage et tout, il y a des vents très violents qui souffrent, très froids. Mais il y a un endroit, de réconfort, de chaleur. Et je pense, dans un premier temps, Seigneur, ramener les manchots qui étaient déjà au milieu de nous, puis qui sont un petit peu partis au loin, et puis ils sont dans le froid. Et vraiment qu'on ait ce cœur pour les accueillir, pour les aimer, sans jugement aucun, pour nous réjouir, et puis nous réchauffer tous ensemble, et puis les aider à être féconds eux aussi. Et puis après, bien, il y aura, enfin, ou ensemble, je ne sais pas, mais il y aura aussi beaucoup d'extérieurs qui verront ce lieu de chaleur unique dans ce désert glacé et ils viendront. Et il faut préparer nos cœurs. Caleb, on prépare nos cœurs pour tous ces jeunes de Guebwiller, tous ces jeunes de Florival qui n'ont pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur à l'école, il n'y a pas de chaleur à la maison, foyer divisé. Où est-ce qu'ils vont trouver la chaleur? Au milieu de nous. Et le Seigneur fait quelque chose de très très beau en nous rapprochant les uns des autres. Et alors le manchot, non seulement il trouve sa chaleur dans le groupe, si vous voulez, dans la communion fraternelle, mais il est aussi spécialement équipé pour ça. Alors, premier équipement, c'est qu'il a des grosses couches de graisse. Ça, c'est dans le naturel. Hein. Je n'ai pas dit que vous étiez gras. Il y a des grosses couches de graisse. Et la graisse, ça parle, bibliquement, ça parle de... C'est quoi la graisse? C'est l'onction. Donc, il y a une énorme protection, un équipement. Le Seigneur nous a absolument équipés. Nous n'avons vraiment, vraiment rien à craindre. Il y a l'onction. L'onction, elle nous protège. L'onction, elle nous garantit de tous ces vents violents. On ne les sent pas. On peut passer des fournaises terribles. Eh bien, non, ça va. Il y a l'onction, c'est bon. Et bon, parfois, si on sent les vents violents, parfois, c'est que le Seigneur veut faire une œuvre de... il veut consumer des choses dans notre chair ou il veut nous faire une œuvre spéciale. Alors, parfois, ça peut effectivement brûler. Mais on ne brûle que les liens qui nous retiennent captifs, vous savez, dans l'histoire de la fournaise. La fournaise ne brûle que les liens. Elle ne brûle pas l'or qui est en nous, le bon qui est en nous, la vie de l'esprit qui est en nous. Celle-là, elle n'est pas brûlée du tout, du tout. Donc, elle est même fortifiée. Donc, on a la graisse, l'onction. Et deuxième chose, dans le naturel aussi, ils ont un plumage, mais alors, mes amis, un plumage vraiment, vraiment, vraiment adapté aux conditions extrêmes. Le Créateur est extraordinaire. Et nous, notre plumage, c'est quoi? Le plumage? On en a un aussi, le plumage. Ouais, sans doute. Oui, oui, tout à fait. Je pensais au psaume 91, effectivement. Hein, c'est ça, psaume 91. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité ou sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Hein, voilà. C'est le mot émettre, fidélité, vérité, ça va ensemble. Mais bien sûr, c'est la parole. C'est un bouclier, une cuirasse. Donc chacun de nous, on a un super équipement, l'onction, la parole. La parole qui est, j'ai appris ça tout récemment par Claire, la parole c'est aussi une arche. La parole, elle nous protège, elle nous garde. C'est notre bouclier, c'est notre cuirasse, c'est notre nid, c'est notre lieu de protection. Et psaume 91, il est extraordinaire ce psaume. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et les ailes de Dieu, elles sont là. Elles sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et ça, c'est la grande leçon du manchot. Donc, ne soyons pas du tout effrayés ni intimidés par les circonstances extérieures. Je dirais presque, c'est normal. Comme l'hiver antarctique, c'est normal qu'il fasse moins 60 et qu'il y ait des vents violents. C'est normal. Et donc, ne soyons pas du tout effrayés par ça. Et il y a une magnifique communion fraternelle qui vient. Alors, je vous disais, le chiffre 13, vous savez que Dieu, moi, je suis comptable, et je sais, comme ma camarade Marie-Christine, prof de maths, Dieu est le Dieu des chiffres et des lettres. Mais il est seigneur des chiffres, il est le créateur des chiffres. Et on pourrait donner, enfin, il y a des livres excellents qui existent là-dessus, les chiffres sont fabuleux. Donc, 13 a une signification. Et une double signification. Donc c'est la valeur numérique, vous savez que les lettres hébreues ont chacune une valeur numérique, et la valeur numérique de Ered, qui veut dire 1 en hébreu, c'est 13. Donc l'éternel Shema Israël, l'éternel est Ered. Adonai Eloheinu, Adonai Ered. C'est 1. Valeur numérique 13. Alors 13, il a deux significations, ça parle d'unité, mais pas d'unité dans le sens de quelqu'un d'unique, enfin un seul. Ça a le sens aussi, unité, le mot Ered, vous le trouvez dans « ils seront une seule chair ». Une seule chair, ça veut dire qu'il y a une communion dans la diversité. Ce n'est pas unique, uniforme, tout seul. Notre Dieu, il est unique, mais unique en trois. C'est ça qui est extraordinaire. Il est relationnel, en soi-même, il est relationnel. Par son essence même, il est relation. Il est Ered, il est un en trois. Donc il est bâti, son essence même, c'est la relation. Et nous sommes à son image. Donc c'est une communion, une unité dans la diversité. C'est le Ered, 13. Et puis, vous avez l'autre 13, qui apparaît aussi dans la Bible. C'est l'unité de l'homme contre Dieu, la rébellion totale. Et vous avez actuellement, en cette année 2013, la double signification du 13 qui apparaît, c'est-à-dire unité, une magnifique formation d'une unité du corps de Christ, les connexions se font dans tous les sens, encore hier, hein, des réseaux de connexions, et ça vient, il y a une unité grandissante dans le corps de Christ, et puis une unité de rébellion démoniaque contre Dieu, contre les plans de Dieu, qu'on voit aussi arriver très vite. C'est la double signification du 13. Mais nous, 13, pour nous, c'est un chiffre racheté par Dieu, ça parle de l'unité du corps. Voilà, les autres 13, on ne s'en occupe pas. Voilà, ils ont été jugés, condamnés, d'ailleurs 10, c'est le chiffre du jugement, 13, 10, 13, voilà. Donc c'est jugé. Et tout ce qui veut sortir de cette unité en nous doit être aussi jugé. Jugez-vous vous-même pour ne pas être jugé. Tout ce qui veut nous écarter des frères et sœurs doit être jugé. Alors, il y a deux choses qui nous séparent des frères et sœurs, de la communion fraternelle. Enfin, j'en vois deux, il y en a peut-être d'autres. Il y a une première chose, Luc en a parlé récemment, c'est en parlant de Méphibosheth, c'est le mauvais regard sur soi. C'est la honte, c'est la culpabilité, c'est le sentiment d'indignité. On est un chien mort, comme disait Méphibosheth. On est un vrai chien mort. On est un aptéris, on est un kiwi, on est tout ça. Et ça nous sépare vraiment des autres et même de nous-mêmes. On n'est plus dans la lumière. Donc la honte, la culpabilité, et vraiment le Seigneur doit faire tout un gros travail pour qu'on sorte de cette... tourner nos regards, comme dit le psaume. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Tourner nos regards vers lui parce qu'il est lumière et on est délivré de la honte. Donc renoncer à tout ce qui est honte, culpabilité, c'est un faux regard sur nous. C'est faux, c'est du mensonge. On n'est pas des chiens morts, on est des aigles royaux. On est rachetés par Christ, on est beau en lui. Voilà. Donc ça, et puis je vous assure, avec les élèves, les jeunes, c'est un gros travail ça, mais c'est la vérité. Je suis une merveilleuse créature. Je suis aimée inconditionnellement par mon Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Et puis il y a une deuxième chose qui nous sépare des autres, C'est tout ce que nos bouches peuvent proférer de critiques, jugements, médisances. Et ça, ça bâtit, si on se remet pas en question, petit à petit, ça bâtit un mur de séparation entre nous et les autres. Et c'est un mur... Il n'y a que la repentance qui peut nous abattre ce mur. Hein. Et c'est un peu ce mur qu'a formé le frère aîné de la parabole des deux fils. Avec son père et avec l'autre frère, il avait bâti un mur de séparation à travers les jugements. Il jugeait son père, il jugeait son frère cadet, et du coup, il n'accédait même pas au trésor de son père, et il était prêt à rejeter le retour du fils. Donc, il y a quelque chose... Dès qu'on est là-dedans, c'est très insidieux, hein, ça vient très très vite, on se juge, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de tout regard, de jugement, de condamnation. Et c'est subtil, parce que parfois on juge les actes, mais très vite, hop, on juge la personne. Et vraiment que le Seigneur nous garde. On a absolument besoin de grandir dans la grâce. Et c'est double chose, là, la honte, culpabilité, mauvaise image d'une part, et puis jugement, critique, médisant d'autre part, amertume aussi, déception par rapport à Dieu, par rapport aux autres, tout ça, attente sur l'autre au lieu de les mettre sur Dieu, bah, tout ça, ça fait des murs et ça fait des montagnes de séparation. Il y a ce cri dans Zacharie, et je crois qu'on est vraiment dans le temps de Zacharie, reconstruction, « Qui es-tu, grande montagne ?»« Qui es-tu, grande montagne de séparation ?» d'obstacles qui empêchent la construction du temple que nous sommes tous. Qui es-tu, grande montagne, pour tenir devant Zorobabel, devant Jésus, le bâtisseur de son temple ? Tu seras aplani. On posera la pierre angulaire, Jésus, les débuts de la pierre angulaire du temple, au milieu des acclamations, grâce. Grâce pour elle. La grâce, elle surabonde et elle engloutit tous les refuges de mensonges, que ce soit sur les autres ou sur nous-mêmes. Et c'est la grâce qui prévaut. Donc, on entend le message de Jean 17, la prière de Jésus, que tout soit un, dans le sens de Hered, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, que tout soit un. Et on parle de communion dans la diversité. Et alors, je ne voudrais pas terminer sur cette dimension un peu terrible des manchots avec ce... Est-ce que vous croyez que dans la pensée hébraïque, ce n'est pas une réalité et puis pas d'autre ? Il y a plusieurs facettes d'une même réalité. On est à la fois appelés à être des manchots, tous ensemble groupés. On est à la fois des aigles royaux qui sont appelés à voler. Et puis, il y a une autre réalité, et je voudrais finir par là, parce qu'elle est... Ah, elle est... Tu peux mettre l'autre image, David. Voilà, le jardin. C'est bien hein, quand même, ça nous change de l'Antarctique glacée. C'est aussi une réalité. Alors il y a un film, je donnerai le titre à ceux qui sont intéressés. Le début du film, c'est une femme très 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 stressée, débordée, surmenée. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve. Débordée, stressée, surmenée, épuisée par toutes les circonstances extérieures. Et elle s'assied 2 minutes sur une chaise. Elle est urgentiste. Hein. Il n'y a pas pire comme métier, je pense, urgentiste pour être stressée. Donc elle s'assoit 2 minutes au bout de 20 heures de travail non-stop dans son hôpital, là. Et puis, elle s'endort instantanément, parce qu'au bout de 20 heures, quand même. Et puis, elle se retrouve dans un magnifique jardin, toute seule, dans ce jardin. Donc c'est son désir inconscient hein, de repos dans un jardin. Et tout le film, il y a une évolution. Mais à la fin du film, je ne vous dis peut-être pas tout dans la fin du film, il y a un jardin préparé pour elle, un vrai, hein, c'est plus un rêve, c'est plus un désir inconscient, un vrai jardin préparé pour elle, et il y a quelqu'un qui l'attend dans le jardin. Ça, c'est la fin. Et ben, c'est pareil pour nous. Il y a un jardin préparé pour chacun de nous. Alors bon, chacun de nous aura un jardin différent, peut-être un jardin japonais, un jardin provençal, un jardin anglais, hein, tout ce que vous voulez. Il y a un lieu de repos et d'intimité préparé pour nous, pour chacun de nous. Il y a un lieu de repos. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler encore du jardin ou pas. Si, je peux parler du jardin. Parce que le jardin, il y a 2 drames qui se sont passés dans les jardins. Même, je vois au moins 3 drames. C'est un lieu de drame, le jardin. Il y a eu, bon, tout le monde connaît le jardin d'Éden. C'est ça, c'est que le 2e drame. Il y a eu un 1er drame avant ça. Et ça, qui sait ? Le 1er drame dans un jardin qui s'appelait aussi Éden, avant, alors je ne sais pas si c'est le même Éden ou pas, il y a eu un autre drame avant le drame du jardin d'Éden. Quelqu'un sait ? Tu étais merveilleux, parfait en toutes choses. C'est Lucifer.
Lucifer, Satan, il était dans le jardin, il était responsable de l'adoration. Il était extraordinaire, ça se trouve dans Ézéchiel, ça. Hein. C'est caché. Il était intime, c'était vraiment un intime en tant que responsable de l'adoration. Et puis, il y a eu de l'orgueil en lui, il a été déchu. Mais il y a eu ce premier drame dans un jardin. Il y a aussi le terme jardin qui apparaît dans l'hébreu. Il y a eu ce drame de la trahison et de l'orgueil. Et donc, il a été rejeté. Deuxième drame, bah, c'est Adam et Ève, tout le monde connaît. Hein. Et vous avez il y a quelque chose de très touchant. En tout cas, moi, ça m'a énormément touchée. Ils ont chuté, ils ont trahi la confiance de Dieu. Et puis, il y a la voix de Dieu qui parcourt le jardin. Dieu est sans cesse en train de vouloir rétablir la relation. C'est un Dieu tellement relationnel. La voix de Dieu parcourt le jardin avec le rouar, parce que c'est le terme rouar, le vent du jour, le rouar du jour. C'est peut-être une référence à l'Esprit de Dieu aussi. Hein. Il parcourt le jardin à la quête de l'homme. Et puis, il paye un prix terrible, terrible, hein, pour que l'homme soit relié de nouveau à lui. Et il y a, alors ça, c'est un autre jardin. Alors, dans le Nouveau Testament, à part une parabole où le mot jardin apparaît dans Luc, vous avez, à votre avis, dans quel évangile on trouve le mot jardin ? Un seul des quatre, à part la parabole de Luc. Ce n'est pas une réalité, la parabole, c'est une image. Hein. À part, quel est le seul évangile où on voit le terme jardin en grec ? Le seul, à votre avis ? Jean. Et oui, c'est normal. C'est l'apôtre de l'intimité, c'est l'apôtre de l'amour. Il n'y a que Jean qui pouvait être attentif à ce terme jardin. Il n'y a que Jean. Et Jean, c'est aussi, on a dit, l'apôtre de la francophonie. Hein. Il nous parle énormément à nous, les Français. Nous, on est des fanas de la relation, on est des blessés de la relation, des amoureux de la relation, mais on a fait plein de bêtises avec. Mais pour nous, c'est un énorme... la relation, c'est en nous, quoi. C'est pour ça que Jean nous touche spécialement. Donc, dans Jean, vous avez deux mentions de jardin et vous avez deux jardins dans Jean. Alors, le jardin de l'échec total de l'homme. Gethsémané, tout le monde connaît. Hein. Gethsémané, c'est la trahison, avant même la trahison, vous avez l'endormissement des amis les plus proches de Jésus, vous avez la trahison, vous avez le baiser de Judas, vous avez la fuite des apôtres, vous avez la catastrophe, quoi. Ça, c'est Gethsémané. Et puis, vous avez l'autre jardin, le dernier jardin des évangiles. C'est lequel ? La résurrection. Il y avait un jardin aussi. Et dans ce jardin, alors là, c'est moi, ça m'a beaucoup touchée. Alors, bon, je vous partage. Hein, mon pasteur me dira après si c'est bon ou pas. Parce que ce n'est pas trouvé dans un bouquin. Hein, ça, c'est trouvé. C'est pas dans un bouquin. Dans le jardin, donc Jésus est ressuscité. Et il y a quelqu'un qui l'a vu en tout premier. Et ce quelqu'un qui l'a vu en tout premier, c'était quelqu'un qui avait vécu les pires oppressions démoniaques dans le passé, les pires. 7 démons. Alors les gens ont tous dit, oh, c'est une femme de mauvaise vie. Non, moi je ne suis pas sûre. Ça, c'est une interprétation très masculine. Hein. Ça peut être des oppressions démoniaques de dépression, d'occultisme. Enfin, 7 démons, c'est une énorme, énorme oppression démoniaque. Elle a été libérée et elle est venue vraiment une intime de Jésus. Une intime. C'est-à-dire, elle le suivait partout, partout, partout. Et elle l'a suivi tellement jusqu'au bout qu'elle a été au pied de la croix. Et ce n'était pas sa mère pourtant. Hein. Vous avez reconnu de qui je parle, hein. Marie de Magdala. Elle a suivi jusqu'au bout. Elle a été c'était une adoratrice jusqu'au bout. Et franchement, je crois que tenir au pied d'une croix romaine avec un supplicié romain, enfin un supplicié crucifié dessus, il fallait de la trempe. Hein. Je peux vous dire que je crois que je ne sais pas si on tiendrait. Hein. C'est terrible, terrible, terrible. Donc elle était là jusqu'au bout. Elle a tenu. Et puis, il y avait ce désir de Dieu, cette adoration. Elle cherchait, elle voulait au moins le corps, au moins quelque chose. Mais vous voyez, cette adoratrice passionnée qui voulait quelque chose de Jésus. Encore un contact, quelque chose. Et puis, c'était fou ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais moi, je suis prête à le prendre le corps. Attends, Jésus, il pesait au moins 70 kilos. Hein, puis elle est peut-être du petit gabarit. Enfin, c'était fou son histoire. Mais vous voyez, cet amour passionné. Et Jésus a été... Là, ce n'est plus lui qui est allé à la quête de l'homme. C'est elle qui est allée à la quête de Jésus. Et Jésus était attiré. Il ne pouvait pas ne pas la retrouver. Là, bon, après je vous soumets ça, mais il me semble que c'est Jésus qui a été attiré par l'amour passionné de Marie de Magdala. C'est lui qui a été attiré. Dans les autres cas, c'est lui qui est allé à la quête de l'homme. Mais là, elle était là, elle voulait son Jésus, et puis lui, il est venu. Et il y a quelque chose de force dans l'adoration d'une église qui attend, qui guette, qui veut Jésus. Et Jésus, c'est obligé, il va venir. Dans la puissance de sa résurrection. Elle est la première à avoir vécu Jésus dans une puissance de résurrection. Et là, je vous soumets ça. Est-ce que l'église de France, ça ne peut pas être ça? Une femme qui a été, enfin une église bourrée de démons, hein, dans la division, dans l'occultisme, dans le compromis, dans plein de choses, mais qui va être libérée par la puissance du sang de Jésus, qui va connaître la puissance de la grâce de Jésus, et qui va être une adoratrice, et déjà ça vient, ce niveau d'adoration est en train de monter, une adoratrice passionnée, qui va suivre Jésus jusqu'au bout, c'est-à-dire que même s'il l'envoie aux extrémités de la terre, dans des coins pas possibles de souffrance, de ténèbres et tout, elle va y aller, suivre Jésus, parce que, bah oui, c'est déjà en train de se faire, hein, avec certains de nos anciens élèves, on y va, on suit Jésus partout, 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 et on connaît la puissance de sa résurrection. Et même si d'autres parties de l'Église ne croient pas à cette puissance de résurrection, parce que les disciples, ils ont très mal accueilli Marie de Magdala, hein, tu dis n'importe quoi, on ne te croit pas, mais elle a persévéré, elle a cru. Il y a une grande puissance de résurrection. Donc c'est le message du jardin. Il y a un lieu d'intimité, un lieu de repos, un lieu de révélation, un lieu de communion. Il est préparé pour chacun de nous. C'est le Jésus du Cantique des Cantiques qui prépare ce lieu pour chacun de nous. Et dans ce lieu, on connaît la puissance de résurrection. Voilà. Merci Seigneur, parce que je te prie vraiment de nous rapprocher les uns des autres pour qu'on soit ensemble cette magnifique tortue de Manchot Empereur, remplie de fécondité, remplie de bons fruits pour toi, remplie de jeûne, de projets, de projets de toi qui vont aller jusqu'au terme. Aucun œuf ne sera perdu, Seigneur. Aucun projet, aucun rêve ne sera perdu. Dans la chaleur de la communion fraternelle et de l'amour, ben il ira jusqu'à terme. Chacun des projets que tous nous portons ira jusqu'à terme. Et merci aussi pour ce lieu magnifique, lieu de repos, d'intimité, de révélation que tu prépares pour chacun de nous. Et chaque jardin est différent. Il est adapté à chacun de nous. Il est préparé pour chacun de nous. Et que personne ne se prive de ta grâce parce qu'elle est inconditionnelle. Elle est imméritée. Elle est disponible pour chacun de nous. Que personne ne se prive de la plénitude de ta grâce, de l'abondance de ta grâce. Et merci Jésus pour la puissance de résurrection qui va jaillir de nous tous et de chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.